Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, autour de la table, nous avons Yudena, bonjour.
Bonjour.
Ensuite, Hélène.
Bonjour.
Sina.
Oui, bonjour.
Et Cathy.
Bonjour.
Bonjour. Alors, vous quatre êtes ici pour nous annoncer prochainement le marché des potiers qui aura lieu le 1er juin de cette année. Toujours avec cette notion de week-end férié, hein, je crois.
Toujours placé après le jeudi de l'Ascension. Donc ça fait partie d'un très grand week-end de 4 jours.
C'est-à-dire que vous avez pris de l'ampleur, vous proposez beaucoup plus de choses, d'animations.
Alors nous, ça se passe toujours sur une seule journée par contre. On n'a pas étoffé notre proposition. On a toujours une journée, donc le samedi entier, de 9h à 19h. Avec toute la journée, donc 40 exposants sur la place. Alors ce sera la place du Mazel. Et comme d'habitude. Et on aura aussi donc, des démonstrations de tournage toute la journée, à partir de 10h. Et puis un atelier de modelage pour les enfants. Et c'est toujours bien apprécié. Et celui-là, par contre, cet atelier, d'année en année, il prend de l'ampleur. Donc il prend beaucoup de place, parfois. Mais les enfants sont toujours ravis de fabriquer. L'année dernière, ils avaient fabriqué des...
Un grand monstre.
Voilà, un monstre.
Avec plein de trucs dedans, c'était magnifique.
C'est une maquette géante, en fait,
ouais.
Où chaque enfant pouvait intervenir et ça évoluait tout au long de la journée. C'était super sympa parce que chacun pouvait apporter son univers. Et à la fin, ça faisait quelque chose de complètement délirant et c'était vraiment très très chouette.
C'était avec de l'eau, hein ?
Ouais.
Ouais, ils ont fait une conduite de l'eau. Hein.
Et donc, il faut rappeler que cet atelier est gratuit. Enfin, toutes les animations sont gratuites.
J'ai bien entendu 4 jours ou alors je me suis trompée ?
Non, en fait, le marché a lieu le samedi uniquement. Et donc l'Ascension, c'est le jeudi... Et le vendredi, c'est le pont, donc ça fait 4 jours de week-end. Enfin, ça fait un grand week-end avec le pont, quoi. Mais le marché de Potiers a lieu le samedi.
Premier choix.
C'est ça.
Alors, toutes les quatre, vous êtes présentes au studio pour nous parler un peu de ce marché des potiers. À commencer par Yudena, tu es céramiste également.
Mais oui, j'ai commencé il n'y a pas longtemps. J'ai commencé au marché des potiers à faire des démonstrations de tournage. Et j'ai participé 2 ans, je pense, à faire la démonstration. Et petit à petit, bah, j'ai commencé à faire ma propre production qui est en route depuis 2 ans. Et il continue à évoluer parce que j'apprends encore. Mais ma production, elle est déjà formée depuis l'année passée. Donc ça fait 2 ans que j'ai fait partie des exposants du marché de potiers dédié.
Hélène, ta fonction est laquelle dans ce marché des potiers aussi ?
Alors, ben moi je suis céramiste aussi. Donc ma poterie s'appelle l'Atelier du Monstre. Ça doit faire 6-8 ans que je produis et que je participe au marché de potiers aussi. De dit. Voilà. Par contre, dans l'Orga, ça fait que quelques années que j'y suis, avec Cathy et François.
Peut-être 3 ans.
Ouais, voilà, 3 ans, près, quelque chose comme ça. Donc, voilà, moi, je fais du grès moyenne température que je décore avec la technique de la terre vernissée.
Ensuite, nous passons à Sina. Alors, Sina, céramiste également ?
Oui, c'est ça. J'ai appris la céramique quand j'avais 19 ans. Après, je me suis installée dans le Diwa il y a 3 ans en céramique. Et je travaille le grès et la porcelaine en cuisson gaz, haute température. Je me suis également intéressée beaucoup aux émaux qui sont... qui ont une chimie elles-mêmes, une alchimie.
Cathy, donc toi, on ne te présente plus, tu es même l'initiatrice. Tu es l'initiatrice du marché des potiers.
Non, pas vraiment. Moi, je viens à la suite de Marianne Soma et Hélène Carlo, qui avaient initié le marché en 2002. Et moi, ça fait bien 12 ans, oui, que je l'organise avec... Enfin, au départ, c'était avec Hélène Carlo et Marianne Soma. Et quand elles ont déménagé, donc on a créé l'association L'Apothéose. Donc, on l'a créée en 2012 pour gérer le marché. Donc, ça fait, oui, quelques années que je m'occupe du marché, mais je ne suis pas au départ... mais ça fait quand même bien longtemps, c'est vrai. Et il ne faut pas oublier de présenter François Lagrange, qui aujourd'hui n'est pas là, mais qui s'occupe de toute la partie communication. C'est lui qui nous a donc créé un site internet, donc le graphisme de l'affiche et tout ce qui est affichage et le lien avec les partenaires, les commerçants de Die. Donc c'est lui qui fait le lien avec eux parce qu'il nous aide beaucoup. On a une dizaine de commerçants, non même plus, une vingtaine je pense, qui nous financent une partie du marché donc pour tout ce qui est communication. Ils contribuent en bonne partie au marché. Donc voilà, François fait partie de l'association.
16e édition, l'occasion de nouveau avoir 40 créateurs en céramique avec des thématiques comme chaque année, des particularités dans leur création.
Oui, alors on a toujours une diversité dans les techniques. Donc on peut trouver, donc, comme a dit Sina, de la porcelaine qui est une terre particulière qui cuit à haute température. Et on a aussi du grès dans la même catégorie, haute température. Et pour la partie un peu moins haute, on a la terre vernissée. Donc c'est la technique utilisée par Hélène. Donc la terre vernissée, c'est souvent très coloré. C'est souvent des poteries qu'on trouve plus dans le sud. Et c'est un côté aussi, ça peut avoir un côté traditionnel, mais comme le grès aussi. Et puis on a du raku. Donc là, c'est une technique particulière avec une cuisson de basse température et un enfumage et des émaux craquelés. Et ce qu'il faut souligner, c'est que comme l'année dernière, on a pas mal de sculptures. L'année dernière, on avait mis l'accent sur la sculpture parce qu'on avait invité Sarah Clotuche qui fait du modelage. Et donc à l'occasion, on avait invité plusieurs sculpteurs. Et cette année, on aura encore plusieurs personnes qui font de la sculpture. Voilà. Et donc, Youdena, elle voulait rajouter une technique.
Non, moi, je voulais juste faire savoir aussi qu'il y a la terre sigillée. Je me demandais.
Ah oui, la terre sigillée.
Oui. S'il y a la terre sigillée. Oui. J'aime bien ça. Je voulais savoir s'il y avait...
Et on va revenir plus en détail de ces techniques, hein, à commencer par Youdena, donc si tu veux parler de cette technique.
Ouais, moi je ne connais pas vraiment la terre sigillée, je n'ai jamais pratiqué, mais je sais qu'on n'utilise pas des émaux. Les émaux sur la terre, ça va se faire avec la même terre, et très filtrée, avec c'est une décantation de la terre. Et c'est l'eau qui reste en superficie avec des particules minuscules qui va servir à émailler les pièces. Donc on obtient des pièces très naturelles, sans rien d'ajouter, juste de la terre. Et il y a la superficie est très lisse, mais très organique, je dirais. Moi j'aime bien ce côté.
Et c'est vrai que dans la même famille, il y a la terre polie. Donc il y aura, je ne sais pas s'il y aura... une terre polie ou pas cette année, mais ça ressemble à la terre polie, donc c'est une terre qu'on va juste passer avec une engobe très fine, donc une terre liquide très fine, et qu'on va on va écraser le grain donc jusqu'à obtenir une texture très lisse.
Ensuite nous passons à Hélène. Alors Hélène, toi tu es l'atelier du monstre, hein, c'est ça?
Oui,
Alors, l'atelier du monstre, en fait, moi, ce qui m'intéresse, donc c'est une pratique encore très différente de ce qui des copines, là. Donc, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de dessiner sur les peaux et de raconter des petites histoires. Enfin, voilà, de laisser aller mon imaginaire et voilà, ce qui est particulier dans ce que je fais, c'est ça, c'est le dessin. Les formes sont très simples. J'utilise du coup un grès qui cuit à moyenne température, dont du grès de Noron. Et en fait, je fais des dessins, c'est très coloré ou pas. Des fois, c'est noir et blanc aussi. Et après, pour moi, l'émail, c'est juste un vernis, quoi. Ça sert à, voilà, après, à faire la finition de la pièce. Mais je, voilà, c'est l'accent est mis sur l'illustration, quoi.
Nous passons à Sina. Alors, Sina, céramiste également, et de quelle technique ?
Comme je dis tout à l'heure, c'est des cuissons en gaz, en réduction. Les réductions, ça permet d'avoir des couleurs différentes pendant les cuissons, quand on enlève les CO de... Les O de la cuisson.
L'oxygène.
L'oxygène, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on oublie, c'est que comme c'est sensible de trouver les couleurs sur les émaux, c'est parce qu'il y a la terre qui choue, il y a après les matières premières qu'on utilise pour les émaux. Et dès quand on change les courbes dans le four, ou on change le four même, ou on a des autres matières, parce que les autres, ils ont plus, ils n'existent plus sur le marché, ça te change complètement les émaux. Ça peut te changer les émaux. Du coup, c'est une alchimie assez sensible et intéressante.
Alchimie intéressante. Ensuite, Cathy.
Alors moi, je travaille comme Sina. Je travaille la porcelaine et le grès en réduction au four à gaz. Donc la particularité, c'est de créer ces émaux en mélangeant des matières premières comme de la silice, de la craie, du kaolin, du feldspath. On rajoute des oxydes métalliques comme le cobalt, le manganèse, le titane, pour créer des couleurs. Et l'alchimie de la réduction dans le four, ça va enlever de l'oxygène, créer du monoxyde de carbone qui va s'échapper du four. Et l'oxygène est enlevé par la réduction et donc va créer des couleurs, des textures particulières.
La céramique est une science précise ou alors il y a beaucoup d'aléas ?
C'est une science qui réunit beaucoup de paramètres parce qu'on a donc le paramètre de la température, le paramètre de l'atmosphère, donc si on est en oxydation, en neutre ou en réduction. Il y a le paramètre du temps de cuisson et il y a le paramètre aussi donc des matières qu'on va utiliser. Donc la céramique, ça regroupe beaucoup de paramètres pour obtenir un résultat. Donc on a le paramètre de la cuisson, donc la température. On a l'atmosphère dans le four, donc si c'est oxydant avec beaucoup d'oxygène, ou en réduction, comme Sina expliquait, on enlève de l'oxygène au contraire. Donc on peut être aussi entre les deux, on peut être neutre. Donc c'est toute une histoire d'apport d'oxygène. Et donc ça va créer des couleurs et ça va créer aussi des textures. On a le paramètre aussi du temps de cuisson. Si c'est cuit pendant plus ou moins longtemps, on ne va pas avoir les mêmes finitions. Et on a aussi donc, tous les matériaux utilisés qui rentrent en compte dans l'émail. Donc pour avoir un émail lisse ou mat, on ne va pas utiliser les mêmes matériaux, donc les mêmes minéraux. Donc on va mettre plus ou moins de kaolin, plus ou moins de silice, de craie, de feldspath, donc tout ça c'est des minéraux naturels. On va aussi ajouter des oxydes métalliques, donc cobalt, manganèse, chrome, cuivre, titane, pour changer les couleurs. Donc tous ces paramètres vont jouer ensemble pour créer un émail.
Nous allons revenir au marché proprement dit. Donc 40 invités céramistes pour présenter leur production au public et le vendre. Comme chaque année, vous avez des particularités ou comment dire des techniques différentes. selon les invités, non ?
Comme on l'a déjà dit, on a diverses techniques. Donc on a la porcelaine, le grès, la faïence, la terre sigillée, la sculpture. Donc la sculpture, c'est du modelage donc en argile. Donc ça, on l'a déjà présenté tout à l'heure.
On a eu beaucoup de propositions cette année. En fait, les potiers, chaque année, postulent pour participer au marché de Die. Enfin, c'est toujours comme ça que ça se passe pour les marchés de potiers. Voilà, on nous envoie des dossiers et on fait une sélection. Et là, on a eu énormément de propositions. On a eu une centaine de propositions et on avait une vingtaine de places. Puisqu'il y en a à peu près une vingtaine qui revenaient de l'an passé. Et du coup, la sélection était rude parce qu'on avait des super belles propositions. Ça a été long et ardu, mais on est super contente de la pluricité des propositions et ça va être vraiment riche.
Et on a aussi à souligner deux jeunes ateliers qui vont venir. Donc c'est des ateliers qui ont été créés l'année dernière et qui viennent du Poitlaval. Léa Brodier, qui vient de Cray. Et on a aussi Lou Oliveres, qui vient de la Loire et qui fait un grès cuit au bois. Donc ça, c'est deux jeunes ateliers qu'on veut aider, quoi. Donc on les sponsorise.
Les personnes qui seront visibles sont détectées au niveau du pays entier, de la France entière. Vous accueillez des gens de n'importe quelle région, par exemple ?
C'est surtout le sud-est, parce que les gens, pour une journée, ça va être difficile de venir de très loin pour une seule journée. Donc on a surtout des gens du sud-est, on a même des gens qui viennent d'un côté de Marseille. On a aussi donc des gens de l'Ardèche, de la Loire. On a pas mal de gens de la Drôme, bien sûr, et de l'Isère. Donc c'est vraiment, c'est vraiment sud-est.
Après, on avait des demandes aussi d'Italie. Hein.
C'est vrai.
Italie, l'Espagne, on a des demandes.
Ouais. Parmi les demandes, oui, il y avait des gens d'Italie. Ouais.
Alors, le 16e marché des potiers de Die fait partie aussi d'un circuit au niveau national de ce type de marché. Et est-ce que vous avez des échanges ou un réseau entre vous pour pouvoir promouvoir vos productions ?
Alors, il y a deux niveaux. Il y a un niveau régional et un niveau national. Donc, le niveau régional, c'est avec l'association d'Argile en Rhône-Alpes, à laquelle je suis adhérente. Et donc, qui nous permet d'avoir une visibilité par l'édition d'un calendrier des marchés en Rhône-Alpes. Et donc, ça permet de diffuser notre marché. Et on a une charte de qualité aussi, avec d'argile. Donc, on respecte cette charte pour avoir un marché de qualité. Et on a un deuxième niveau donc national, c'est avec le CNC, c'est le collectif national des céramistes. Donc avec eux, donc on a aussi on contribue pour un calendrier national. Et donc ça nous représente au niveau national. Donc ce calendrier est distribué à tous les potiers qui le mettent sur leur étal de marché et comme ça le public peut nous retrouver. Sur un marché de potiers à Paris, on va figurer sur le calendrier. Donc, on sera visible à Paris, à Nantes, partout. Où il y a des marchés.
Voilà. L'activité de céramiste aujourd'hui en France, comment en vit-on
En général, on est des très petits ateliers. Donc, on est en indépendant. On est souvent en auto-entrepreneur. On peut être aussi affilié à la Maison des artistes, si on fait des pièces uniques. Ensuite, il y a peu de potiers qui ont des sociétés, mais en général, c'est micro-entreprises, petits ateliers.
Le collectif des céramistes national, collectif, le C.
CNC.
Le CNC, le collectif national des céramistes. Est-ce que vous vous retrouvez? Est-ce qu'il y a, comment dire, une assemblée générale ou un rendez-vous annuel pour avoir la température de cette activité?
Alors, le CNC fédère les associations régionales. Donc souvent, dans les assemblées générales des associations régionales, on a des nouvelles du CNC. Parce qu'en fait, eux, ils ne font pas vraiment de gros projets. Sauf parfois, tous les ans, il y a un festival des fours à la borne pour les cuissons au bois. Et le CNC participe, en fait, les adhérents peuvent venir participer à ce festival. Mais c'est surtout aux assemblées générales régionales où on a un peu des nouvelles du métier, de ce qui se passe, de ce qui se fait. Et à rappeler, c'est que donc, l'association régionale d'Argile en Rhône-Alpes est à son siège social à la Maison de la Céramique de Dieulfi. Et la Maison de la Céramique, elle contribue beaucoup pour le métier de potier en proposant des formations auxquels on peut participer donc par le biais de l'association d'Argile, si on est adhérent. Et si on est extérieur, on peut aussi demander à suivre des formations à la Maison de la Céramique de Dieulfi. Donc c'est vrai que localement, on a quand même un réseau qui est assez... Enfin, localement, voilà, autour de Dieulfi et la région Rhône-Alpes, on a un réseau qui est quand même assez important pour s'échanger... des infos, et on a aussi des échanges de savoir avec les potiers de l'association d'Argile. On organise donc des stages chez les potiers, quoi, dans les ateliers.
Thank you.
y a un public pour ces ateliers qui pratiquent eux-mêmes la céramique en tant qu'amateurs.
Alors là, c'est un réseau professionnel, en fait, parce que les adhérents à d'Argile-en-Rhône-Alpes sont des professionnels. Donc, les échanges ont lieu entre les adhérents. Donc, c'est pour... si on a envie d'explorer des pistes qu'on ne connaît pas, de découvrir le modelage si on ne fait pas de modelage, par exemple, ou approfondir les émaux. Voilà, ça permet aux professionnels d'évoluer.
Ça n'empêche pas qu'à la Maison de la Céramique, on peut accéder autant qu'amateur. Moi, je suis rentrée comme ça un peu. J'ai fait un stage de 5 jours que j'ai conseillé à tous ceux qui veulent commencer à toucher la terre en tournage. J'ai fait juste 5 jours que je me suis payée moi-même parce que c'était pas à l'époque, c'était 150 € la semaine. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Après, c'est vrai que, comme dit Cathy, il y a beaucoup de formations pour des potiers qui sont déjà installés et qui veulent évoluer et qui veulent se spécialiser dans quelque chose de plus concret. Mais c'est accessible. Je veux dire, tous ceux qui veulent accéder à la poterie, il y a un moyen de... Moi, par exemple, je n'ai pas suivi des formations longues. J'ai fait juste ces 5 jours de tournage. Après, je m'ai acheté un tour et j'ai pratiqué. Et j'ai demandé à les potières. Je suis très, gratifiée ou remerciante de tous les potières du Diwa qui m'ont énormément aidée dans ma démarche des poteries. Parce que j'ai appris avec les potières d'ici et d'ailleurs... On peut devenir potière si on a envie, en fait.
En autodidacte.
En autodidacte, okay. Ouais, carrément.
Il faut beaucoup de courage, quand même, d'être courageux.
Il faut beaucoup de courage, mais je pense... C'est pour ça que j'ai dit, si on a envie. Si on a envie, le courage, il vient, quoi.
Comment êtes-vous toutes venues à la céramique?
Moi, je suis arrivée dans le Diwa il y a à peu près 7 ans. Et j'avais passé par plusieurs métiers. Je suis photographe à la base. Et après, j'ai fait une formation maraîchage. J'avais touché à plein de trucs en artisanat, aussi en osier, en vannerie de toutes les sortes. Et je voulais trouver un métier en m'installant ici. Je ne savais pas vraiment si la terre ou le bois. Et en arrivant ici, c'était évident que c'était la terre, parce qu'il y avait plein de potières. Donc, j'ai commencé à visiter les ateliers des potières un peu à gauche, à droite, ici. J'ai fait cette formation de 5 jours à Tulifi. Et après, grâce à Marie-Paul Monard, une ancienne potière de Lèche-en-Diwa, j'allais une fois par semaine chez elle et j'ai tourné. Elle me montrait des trucs après que j'ai pratiqué à la maison dans un petit atelier que je me fais dans un petit kajibi où j'ai mis mon tour. Et j'avais que ça. Après, j'ai cuisé chez elle. Et après, j'ai visité plein d'autres potières. Mon premier stage, c'était chez Léna Vombuse à Luz-la-Croix-Haute quand elle était là. Et après, même à l'étranger, j'étais chez des potières qui m'ont... Voilà, avec qui j'ai appris des choses juste par l'effet d'être là et voir comment elle travaillait. Et voilà, après, en pratiquant dans mon mini-atelier. Voilà, après, j'ai pris un vieux garage que j'ai investi avec deux autres amatrices de la poterie. Et on a transformé le garage dans l'atelier qui est aujourd'hui, voilà, mon atelier Alpha, qui s'appelle Alucandiwa. Voilà.
Hélène, pareil?
Alors, moi, c'est une rencontre, en fait, qui m'a mis à la poterie. Au départ, moi, j'ai fait une formation, j'étais au Beaux-Arts de Lyon, qui est une école très conceptuelle, donc très, très loin de la céramique et de ce genre d'art. J'avais une amie, Cécile Copier, qui était au Beaux-Arts avec moi, et qui était installée dans la Drôme, et qui m'a proposé de partager sa production avec elle, quand je suis arrivée dans le Diwa. Et donc, la proposition, c'est qu'elle faisait le tournage et je faisais la déco. Et puis, finalement, elle est passée à autre chose, elle a décidé d'arrêter la céramique, et j'ai continué. C'est donc grâce à Cécile Copier que je suis devenue céramiste. Et après, moi, j'ai fait un petit tour au CNIFOP, qui est la Mecque des potiers à Saint-Amand-en-Puisaye. Mais voilà, je ne suis pas une grande technicienne. Mais voilà, j'évolue tout le temps et je continue à apprendre comme tous les autodidactes. On a toujours beaucoup, beaucoup de choses à apprendre, quoi. Voilà.
Sina, pareil ?
Pareil, non. moi, comme je dis, j'ai appris la poterie avec 19 ans. C'était quand je finissais l'école. Pour moi, c'était clair que je veux pratiquer un métier manuel. Comme j'étais déjà très intéressée à le travail artistique ou manuel. Et je me suis décidée pour la terre parce que je me sentais le plus attirée vers ce métier, de cette matière qui est très doux et très... aussi avec des expériences avec les cuissons et toute cette richesse. Après, je travaillais dans différents ateliers en Allemagne et je me suis décidée de plutôt visiter une école en Allemagne, une école art céramique, qui a duré 3 années. Et c'était vraiment une de mes meilleurs temps de ma vie. C'était génial.
Cathy, on te connaît depuis un moment. Est-ce que tu veux présenter aussi comment en es-tu venue à la céramique ?
Alors, pour résumer, moi, c'était une reconversion. Et c'était grâce à Dominique Baudard, qui était potier à Die, et ses cours du soir. Et donc, je me suis tournée vers la poterie. Donc au CNIFOP, le centre de formation pour les potiers qui est en Bourgogne. Donc voilà, j'ai fait 3 ans et demi autour de la poterie, donc au CNIFOP, et puis aussi chez des potiers dans le Cantal, chez les Atkins, où j'ai travaillé, j'étais salariée, je tournais pour eux, où j'ai fini de parfaire ma formation de tournage, et ensuite encore au CNIFOP pour les mailles. Et après, grâce à Nathalie Larocque, qui était installée à Die, l'atelier des remparts, j'ai fait 2 fois 6 mois de stage chez elle avant d'installer mon atelier en 2005. Voilà. Et c'est pareil, hein, c'était vraiment les meilleures années de formation que j'ai jamais... Enfin, les meilleures années de ma vie, parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaisait. Et...
L'activité de poterie et de céramiste est essentiellement féminin.
De plus en plus, oui.
Moi, j'ai entendu dire que les métiers qui n'apportent pas d'argent, ils deviennent un métier de femme, en fait.
Parce
t'as
raison.
Parce que nous, on fait ce qu'on veut sans regarder si on va être riche ou pas avec. C'est peut-être une pression sociale, je ne sais rien. Mais c'est vrai qu'avant aussi, je me demandais au départ si c'était à cause des formes qu'on faisait avant, qu'on faisait des grands jars, des trucs énormes pour le des pots de plantes, tout ça, et que c'était un truc plus physique, et que maintenant on fait de l'utilitaire, mais on a fait toujours de l'utilitaire en poterie. Je pense pas qu'il soit ça la raison pour laquelle avant il y avait plus d'hommes que maintenant, mais je pense que c'est pour moi c'est une raison aussi, ces côtés économiques. La poterie, on ne devient pas riche en poterie, sauf si on est super
star,
voilà.
Mais tu as raison pour l'histoire des grosses formes. Maintenant, il n'y a plus de grosses formes. Et c'était les hommes qui tournaient les très grosses formes. Et les femmes, elles faisaient l'aisance, elles faisaient le décor, elles faisaient les petites choses. Ben, elles étaient employées comme potières, mais elles tournaient pas essentiellement. Elles faisaient plutôt les accessoires.
Ouais, après, là, tu parles pour l'Europe, parce qu'en Afrique,
ah oui, en Afrique, c'est différent, bien sûr. Ah oui, tu peux en parler en d'ailleurs, Asie, c'est super intéressant.
Je ne sais pas si je peux en parler. J'ai eu une très belle expo l'année dernière au Musée des Confluences, mais en fait, et puis j'ai grandi en Afrique, mais voilà, après j'ai vu faire, mais je ne saurais pas expliquer précisément. En tout cas, elle tourne sans tour, et c'est vraiment fascinant. On peut facilement voir des images sur Internet de ces pratiques-là. C'est vraiment très, très impressionnant. Et il y a une grande maîtrise. Et c'est un métier de femme.
Ouais. Traditionnellement. Je crois que les hommes sont exclus. Ouais. Donc, c'est vraiment...
Moi, j'ai vu, c'est Noël aussi, aux Canaries, une exposition de la poterie au Rif, au Maroc. Et c'est exclusivement un métier de femme.
D'accord.
Elles-mêmes, elles vont prendre la terre, elles-mêmes, elles font tout du début à la fin, même le four et tout.
La céramique, est-ce que ça demeure simplement un art décoratif ou de simples petites, comment dire, vaisselles du foyer? Ou alors, est-ce que vous auriez aussi d'autres types d'applications de la céramique dans une activité, disons, locale?
C'est vrai qu'on peut avoir des commandes particulières. Par exemple, j'ai été amenée à faire un moule pour des balustres de balcon. Et donc, à reproduire un ancien balustre pour un particulier. Voilà, ça peut être un genre d'application qu'on peut faire.
Il peut y avoir aussi des plaques pour les rues, des plaques de rue, ça se fait assez facilement, surtout dans les villages du Diwa où on cherche à faire des choses assez traditionnelles. Voilà, après...
Il existe, alors peut-être pas dans notre région, mais des tuiles vernissées qui sont très belles.
Du carrelage aussi. Sinon, on est plutôt dans l'utilitaire. Ou dans les sculptures, dans les décoratifs, quoi.
Voilà. Par exemple, c'est peut-être une utopie, mais un producteur local qui voudrait vendre ses produits dans une céramique particulière, ça serait pour vous hors contexte.
Mais ça arrive déjà. J'ai une copine, Satya, qui fait des produits cosmétiques, qui a des baumes qui sont... Pressentés à vendre dans des petits pots en poterie faits par une potière d'ici, Juliette Combé, quoi. Donc ça arrive déjà qu'on fait de partenariats avec des artisans d'ici, mais c'est pas très courant. Moi, je parle de commandes avec...
Ça serait dans le contexte de l'économie circulaire. Hein. Je parle de ça au lieu d'acheter des bocaux ou des pots éloignés d'assez loin. Pourquoi ne pas profiter aussi de ce qui se produit sur le territoire?
Dans la restauration aussi, ça peut être utilisé par les restaurateurs qui souhaitent avoir une belle poterie qui soit facilement lavable. Donc, on s'adapte selon les demandes. Moi, j'ai jamais eu vraiment de commandes. J'ai toujours eu des contacts, mais ça ne s'est jamais concrétisé avec les restaurateurs.
Moi, j'ai une commande de pichets pour l'auberge du Combo. Et j'ai eu aussi une commande de cendriers pour le bar associatif des Saint-Romain.
Café des voyageurs.
Voilà, le café des voyageurs. Je n'ai pas fait encore ces cendriers.
Alors,
ça va le faire.
Et sinon, je connais un potier anglais qui a fait pendant plusieurs années des pots de miel pour un producteur de miel. Bon, voilà, c'est pas encore arrivé ici, mais pourquoi pas.
Oui, on peut faire des portes-savons pour des gens qui font des savons ici aussi.
Mais ça, je fais des portes-savons.
Ça marche. Moi aussi, j'ai fait des portes-savons. Mais est-ce que tu as eu des commandes des gens qui font des savons, qui te commandent la savonnière pour la vendre dans son stand?
Non. Qu'est-ce que j'ai eu? C'est une commande de vasque pour une fontaine. Et ça se fait aussi souvent en céramique, c'est bien étanche.
Et... Moi, j'invite tous les restaurateurs locaux à voir des belles poteries dans les restos. Ça vend mille fois plus et ça mange mille fois mieux dans une assiette artisanale que dans une assiette déchet. Je ne vais pas donner des noms, mais voilà, déchet des producteurs en Chine, quoi.
Et la nouvelle technologie telle que l'imprimante 3D, est-ce que vous êtes penché sur cette technique en céramique?
Alors, moi, j'avais un projet d'essayer de faire un partenariat avec un copain qui, lui, fait du chocolat à partir de moules 3D, Adrien, mais on n'a pour l'instant pas concrétisé, mais ça est toujours c'est dans un coin de ma tête et ça pourrait bien porter ses fruits.
Quel était le but pour toi de faire quoi exactement?
Je ne peux pas le dire là pour l'instant, c'est un projet.
Top secret.
C'est top secret. Mais il m'avait commandé. En fait, l'idée, c'était de moi de faire des formes en céramique qui reprendraient moulées et qui serviraient pour faire des moules de chocolat.
D'accord. Voilà. Donc, toi, tu servirais d'intermédiaire entre son produit à lui. La céramique, ce serait pas. Parce que pour moi, l'imprimante 3D. Je vois pas trop. Je pense qu'elle peut servir à fabriquer des moules, faire des formes pour faire des moules et ensuite mettre l'argile dessus. Mais faire des produits en argile 3D, enfin, ça existe, hein, je crois, l'imprimante 3D pour l'argile. Moi, je vois pas l'intérêt. Je pense qu'on est meilleur. Par exemple, pour mon histoire de balustre, j'aurais peut-être pu essayer d'en faire un en 3D, en imprimante, je sais pas. Hein. Mais j'ai pas voulu. Enfin, voilà, mon truc, c'était de le reproduire à la main.
Peut-être une piste à explorer encore. Hein. On va revenir sur cette journée, hein, parce que l'émission se termine bientôt. Alors, le 16e marché du potier qui commencera à 9h, place du Mazel, le samedi 1er juin. En dehors des 40 stands, il y aura des animations, comme tu le disais en départ. On peut parler de certaines personnes qui pratiqueront ces animations.
Il y aura des bonnes glaces à manger. Je pense que venir en famille au marché de potier pour voir les super poteries qui viennent de partout, admirer... les œuvres qui en exposent, plus avoir une animation pour les enfants qui sont ravis de toucher la terre avec des super animatrices, des Buenas Ondas qui viennent faire l'animation.
Est-ce que tu peux rappeler le nom des animatrices, parce que j'ai oublié en
fait. Les animatrices, ce serait Aurélie Ponson et Natacha Billon et Hélène Brie. Et franchement, j'ai jamais connu des animatrices en terre pareilles. Les enfants s'éclatent, ils sont super libres de faire ce qu'ils veulent. C'est un moment magnifique pour les enfants, ils sont toujours ravis. Et on peut manger une glace, on peut faire le marché de légumes du marché normal de Die, parce que c'est tous les samedis, et passer, acheter et observer et passer un bon moment au marché avec le super soleil magnifique qu'il va faire ces samedis 1er juin. Je pense que c'est un samedi de rêve.
Et on aura aussi Sébastien Carlo qui viendra faire la démonstration de tournage. Donc Sébastien qui est tourneur. Et cette année, on n'aura pas de musique. Voilà, pour faire des économies.
Eh bien, je vous remercie toutes quatre d'être venues, Youdena, Hélène, Sina et Cathy, pour nous présenter ce samedi 1er juin, ce marché des potiers.
Merci.
Merci à toi.
Vous avez une visibilité sur Internet, d'ailleurs.
Alors, oui, donc, pour voir notre site Internet, donc, qui a été créé par François Lagrange, que je remercie encore, c'est marchépotierdietoutattaché.com.
Eh bien, je vous remercie toutes quatre et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.
Merci.
Merci.
Bonne journée.
Okay, the bird.